Bouillon Lecture. Bouillon Lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour, et ce, confortablement et simplement installé chez vous, par la simple lecture d'extraits choisis par Hervé Perrol ou Catherine Bonny. Tout d'abord, bonjour Hervé.
Bonjour.
Hervé, tu es seul aujourd'hui ?
Eh oui,
voilà, malheureusement. Ça arrive.
Ça arrive, oui.
Et donc, c'est toi qui vas nous lire quelque chose aujourd'hui. De
Exactement.
Quoi s'agit-il ?
Alors, eh bien, aujourd'hui, j'ai choisi de lire des extraits d'un livre de Barbara Constantine qui s'appelle « Allumer le chat ».
Barbara Constantine, ça me dit quelque chose, Constantine.
Et hein, oui, parce que avait... comme tu es un vieux, Dominique, eh ben, tu réagis.
Eddie Constantine.
Voilà, au nom de Eddie Constantine. Eddie Constantine, bah, oui, c'était, en fait, c'était un Américain.
C'était un
certes,
Américain.
Comédien et chanteur, mais d'origine russe, d'où le nom de Constantine. Et puis, il a eu plusieurs femmes, cet homme-là, dont une qui était française, avec laquelle il a eu des enfants, dont une qui s'appelle Barbara. Donc Barbara Constantine est la fille de Eddie Constantine.
Eddie Constantine.
Voilà.
Ça ne nous rajeunit pas.
Ah non, ça, vraiment pas.
Enfin, le père, hein, nous. Et donc.
Et donc ce roman Allumer le chat, je crois que c'est le premier de Barbara qui a été publié chez Kalman Levy en 2007.
Et donc, il faisait partie du Robles.
Exactement. Alors, comme je ne faisais pas partie du Robles à ce moment-là, dans les années donc 2007 ou 2008, j'avoue que je ne le savais pas et je l'ai découvert là récemment dans ma bibliothèque préférée.
Et moi, je l'avais lu à l'époque, mais je serais incapable de dire à quelle époque il était au Robles.
Ben, comme il est sorti en 2007, on peut penser qu'il était au Robles soit en 2007
2008,
soit en 2008.
2009, oui, voilà. Oui, peut-être.
Alors maintenant, avant de continuer ma lecture, de commencer ma lecture, il faudrait qu'on cause un petit peu, Dominique, sur ce que sont les livres. Sais-tu pourquoi, Dominique, j'aime le monde des livres ?
Eh bien, parce que tu es vieux et que, et que oui, quand tu étais
petit,
tu lisais beaucoup. Et que si tu étais né maintenant, tu serais dans les réseaux sociaux plus que le nez dans les bouquins, peut-être ?
C'est pas la bonne réponse que j'attendais. Parce que le fait que je sois vieux, ça se dit pas à la radio.
Oui, c'est vrai que ça ne se voit pas.
Bon, bref, puis que j'aille pas sur les réseaux sociaux, non, c'est vrai.
Alors là, les c'est vrai sociaux, que sur les réseaux sociaux, t'es pas très...
Ah non, je suis pas fort. Et pourtant j'ai un profil Facebook. Hein.
Oui.
Oui, oui. Mais j'y vais jamais. C'est comme ça. Non. Bonne réponse...
Donc pourquoi aimes-tu les livres, cher Hervé ?
Eh bien, j'aime les livres parce que les livres, c'est pas toujours de la littérature.
Oui, peut-être.
Oui, la dernière fois, enfin, à une émission précédente, j'avais dit qu'il y avait plein de thèmes dans les livres. Il y avait des policiers, il y avait des science-fiction, il y avait des biographies, des romans. Eh bien, il y en a dont on peut dire qu'ils ne sont pas de la littérature.
Alors là, ça pourrait nous emmener dans un grand débat sur ce qu'est la littérature, mais bon.
Et ce qui ne l'est pas. Et je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de m'expliquer un petit peu. Prenons le prix Robles de cette année. Je ne te réexplique pas ce qu'est le prix Robles.
On en a parlé juste à l'instant.
Cette année, le prix Robles fut décerné à un roman court, d'ailleurs, qui s'appelle « À la ligne, feuillet d'usine » de Joseph Pontus. C'est un curieux roman qui n'a ni point ni virgule. Et à chaque fois que l'auteur veut indiquer qu'il est en fin de phrase, eh bien, il va à la ligne. Comme ça, ça lui permet d'éviter la ponctuation.
Et puis ça donne quand même un style à ce bouquin.
Ça donne,
très particulier.
Au début, ça m'a complètement perturbé, cette façon d'écrire. Et puis finalement, on rentre bien dans le jeu. Et c'est le livre qui a donc été primé cette année.
Tout à fait.
On peut le dire. On pourrait même le qualifier de poème avec cette façon d'aller à la ligne à chaque fois. En tous les cas, ça fait débat dans le groupe dont je fais partie, dont j'ai déjà parlé une ou deux fois. Effectivement, est-ce de la littérature ? La question est posée. Eh bien, avec le livre de Barbara, donc Constantine, oui, on pourrait poser la question, est-ce vraiment de la littérature ? Mais en tous les cas, c'est intéressant à lire. Par contre, il faut que je prévienne quand même, attention aux oreilles sensibles. Il y a des mots qui pourraient paraître un petit peu durs.
S'il y a des enfants qui nous écoutent.
S'il y a des enfants qui nous écoutent. Raymond veut allumer le chat, mais mine l'amadou. Il se plante devant la porte ouverte, jambes écartées, poings sur les hanches. Il hume l'air. La nuit s'annonce douce et tranquille. Mais d'un coup, ses sourcils se froncent, une ombre passe, et sans se retourner, « Passe-moi le fusil, je vais allumer le chat !» Il n'a pas bu pourtant, juste quelques verres de rouge au dîner, autant dire rien. « Et pourquoi tu veux l'allumer ?» dit. Quand il me regarde, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Alors là, j'en ai marre, je vais lui régler son compte à ce salopard. Elle, ça ne l'amuse pas du tout, parce qu'à chaque fois qu'il se sert de son fusil, et malgré tout l'amour qu'elle lui porte, elle ne peut que constater son peu de talent pour cet instrument. Les cages à lapins étaient loin de la direction qu'avait pris le chat la dernière fois, et pourtant, elle en avait ressorti 4, criblés de plomb. Les 8 autres n'avaient pas survécu longtemps, et même en civet, ils n'avaient pas été bons à manger. Ça leur avait tourné les sangs, cette histoire. Et le chat, lui, moins d'une heure après le carnage, il était tranquillement retourné se chauffer près du poêle. Depuis ce jour-là, elle aussi le soupçonne de se foutre de leur gueule. Mais ça, elle le garde pour elle, parce que quand même, un chat, c'est pas autre chose qu'une bête, hein. Alors, se foutre... Et maintenant, elle aimerait bien essayer de détourner Raymond de son idée. Elle se dit que c'est vraiment le moment de lui parler de... Tu sais qui c'est que j'ai croisé au marché ce matin et qui est même venu me saluer et me demander comment tu allais par la même occasion ? Tu veux me détourner de mon idée ou quoi ? Non, juste gagner du temps, c'est tout. Ah bien, dit comme ça, d'accord. Alors, c'est qui que t'as vu ce matin, ma petite mine ? Josette. Il s'emporte immédiatement. Elle s'y attendait. Elle le connaît par cœur, son bonhomme. Il rougit d'un coup et les veines de ses tempes enflent légèrement. « Elle est venue te voir ? Elle t'a parlé ? Et toi, tu lui as répondu ? Et c'est que je ne pouvais pas faire autrement. »« Ah ben oui, bien sûr, tu ne pouvais pas. Et qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle a besoin de toi. Son petit Rémi est couvert d'eczéma et le docteur Lubin ne sait pas bien quoi faire pour le soigner. C'est même lui qui lui a conseillé de te... Lubin, il est juste bon qu'à soigner sa tenue, celui-là. De l'eczéma, tu dis ? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Et puis son môme à la Josette, c'est sûrement qu'un petit merdeux. Mais pour l'eczéma, tu ne crois pas que... Non, je ne crois pas. Il n'a que 5 ans, le pauvre, et c'est pas sa faute si ses parents, c'est la mienne, peut-être. En général, dans ce cas-là, elle laisse passer 1 temps ou 2. Là, elle choisit d'en laisser passer 3. Puis, très doucement, elle l'amadoue. C'est vrai qu'il a l'air un petit peu bébête, le petit. Ah, tu vois, j'en étais sûr. Et par-dessus tout, il est mal foutu, non ? Oui, c'est vrai, les épaules en bouteille, de Perrier, les jambes un petit peu arquées. Il tient de Martial, c'est bien dommage. Mais Raymond, mon grand, pour son eczéma, tu pourrais peut-être... Ah, t'es chiante ! Mais t'aimes bien quand même, non ? Oui, c'est vrai, mamine. Elle se colle, il l'embrasse. Ce sont des vieux qui s'aiment. Bon, pour l'eczéma du gnome, je veux bien essayer. Tu l'amèneras seule. Je veux pas qu'elle mette les pieds ici. Hein. Pour maintenant, oublie le fusil. Je suis encore un petit peu énervé. J'ai l'impression que je viserai à côté et ce serait dommage. Mais il ne perd rien pour attendre, ce trou du cul de chat. Josette bine son carré de dradi. Josette s'active dans le jardin potager pour éviter de trop réfléchir. Elle bine. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris de l'envoyer chez Raymond ? N'empêche, si le docteur Lubin avait été capable de le soigner, j'aurais pas eu à le faire. C'est ça la raison quand même. Pauvre nul, il a dû trouver son diplôme dans une pochette surprise, celui-là. Tiens. Ah, ça existe encore les pochettes surprises ? Rose pour les filles, bleu pour les garçons, dans des cônes en papier ? Ah, oh, je me rappelle, c'était toujours un petit peu décevant, parce que le jouet était franchement prout. Mais je me disais que la prochaine fois, ce serait super. Ça existe peut-être plus, les surprises. C'est bien dommage. Mon petit Rémi, je pense à lui et je le pleure, parce que je voudrais pouvoir lui dire... Que je regrette que je n'aurais jamais dû essayer de le remplacer. Ma petite, ma toute belle, il pourrait comprendre, peut-être que je n'arrive plus à... Mais non, je ne peux pas lui dire ça. Bon Dieu, je suis fatigué de pleurer. Et puis, peut-être qu'il s'en fout en fin de compte. Il tient de Martial, c'est un rustique. Des fois, je me dis qu'il manque un peu de... Enfin, on dirait un pauvre petit oiseau tombé du nid. Mais quand même, ses croûtes sur son visage et ses mains, ça me dégoûte. Ça me fait penser à la lèpre. J'aurais jamais pu être infirmière, moi en tout cas. Elle se redresse, une douleur fulgurante. Elle crie « Nom d'un chien, mes reins !» La douleur l'empêche momentanément d'apprécier le travail qu'elle vient de finir. Elle inspire profondément, se frotte le bas du dos du plat de la main en pensant « Ah, pas mal le carré de radis, on en mangera dans une quinzaine de jours. » Ce doit être le mot « chien » du « nom d'un chien » qu'elle vient de crier, qui a dû la réveiller en sursaut, car voilà Yuka, la vieille chienne, qui arrive lentement en remuant la queue frénétiquement. Plus elle la remue, plus elle a l'impression de courir. Alors, elle la remue très très vite, et de plus en plus fort. Là, elle croit qu'elle galope. En fait, elle avance à deux à l'heure, et elle trébuche à chaque pas. Putain, ça fait mal à voir. Josette la regarde arriver glaciale. « Ben, ma pauvre Yuka, va falloir qu'on pense à te faire piquer un de ces quatre. C'est pas humain de te laisser vieillir comme ça. » Yuka, elle comprend plein de trucs. Et puis elle se dit « Pourquoi est-ce qu'on abrège si facilement la vieillesse des animaux et pas celle des hommes, si on pense vraiment que c'est de la souffrance ?» En tout cas, c'est le moment qu'elle choisit pour s'écrouler tout simplement dans le carré de radis que vient de biner Josette. En plein milieu, yeux grands ouverts, raide morte. Exit la Yuka. Ce n'est pas du tout le moment qu'avait prévu Josette. Alors, elle hurle à la mort. Elle se laisse tomber par terre à genoux près du corps de la chienne et elle lui demande pardon. Pardon d'avoir pensé te faire mourir. T'entends, Yuka? Reste ici, Yuka, ici, j'ai dit. Mais Yuka ne l'entend plus. Raymond positive tout. Ça ne lui est pas arrivé depuis plusieurs jours. Il se plante devant la porte ouverte, jambes écartées et poings sur les hanches. Et comme la dernière fois, la nuit s'annonce douce et tranquille. Il voit passer Bastos qui va faire son petit tour hygiénique avant de regagner ses pénates pour la nuit. Ça le démange. Mais depuis que Rémy est là, il évite de penser au fusil, surtout quand il lui prend l'envie d'allumer le chat. Bastos, il l'a trouvé au fond d'une poubelle, tout petit, tout miteux, et s'est laissé attendrir. Le soir même, il a commencé à regretter. Le petit salopard avait trouvé ses cigarettes dans sa poche de sa veste et les avait toutes dépiautées pour se rouler dedans. L'odeur des brunes le rendait fou, et pas moyen de le détourner de son vice. En tout cas, c'est comme ça que pendant des années, Raymond s'est fait faire les poches par son chat. Elles arrachaient la gueule, les Bastos. Elles ont peut-être fini par les interdire. De toute façon, maintenant, Raymond, il s'en fout. Il ne fume plus de cigarettes. Ça a été difficile, mais il a suivi les conseils d'un collègue rebouteux et il s'est mis à l'herbe. Ça l'a bien aidé pour arrêter le tabac. En y réfléchissant, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir ses pulsions vis-à-vis de Bastos. On ne peut pas appeler ça autrement, d'avoir envie d'allumer le chat. C'est pas vraiment un truc normal, faut reconnaître. Parce que dans le fond, Bastos, il l'aime. C'est vrai qu'il se fout ouvertement de la gueule du monde et c'est énervant. Mais c'est ça qui est bien chez lui. C'est pas un con de chat domestique. Il n'est pas comme ces animaux de compagnie qui trouvent que même ce que font leurs maîtres est béni, même quand ils se font dérouiller. En plus, Bastos, s'il pouvait parler, c'est sûr qu'il dirait des trucs brillants, ça se sent. Alors, quand après avoir fumé un pétard, il lui prend l'envie de l'allumer, c'est pas un truc normal, faut admettre, mais c'est pas vraiment sérieux. Mine, elle sait bien que c'est pas sérieux. Elle fait celle qui s'insurge, et tout ça, mais au fond, elle se marre. Elle aime bien ses coups de gueule. Sauf les coups des lapins, ah ça lui a pas plu à la mine. Quatre d'un coup, là, c'était trop. Faut admettre aussi. Wapitam pam papoué, ti pam 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 papoué. Wapitam pam papoué, ti pam 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 papoué. Je porte
à l'auriculaire, une chevalière, 1.4 carat, large comme ma face. On dit que je prends des airs, je fais des manières, mais quand je donne ma main, tu l'embrasses. Quand mes fesses plissées s'enfoncent dans le cuir, mon pouvoir est bien en place, et je lâche pour moi-même un sourire. Aussi loin que me ramènent mes souvenirs sur terre, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Un affranchi, c'est tout réfléchi, et je remercie Martin Scorsese et Joe Pesci. Nous célébrons toute votre classe éternelle lors de nos joutes au petit vin blanc sous les tonnelles. Wapitam pam papoué, tu pam pam pam, pam papoué. Wapitam pam papoué, tu pam pam pam, pam papoué. Entre toutes les familles du milieu, les règles sont strictes et chacune a son territoire de jeu. Inutile pour un chanteur à fond de noisilles secs de vouloir faire la nique aux voix surpuissantes du Québec. Un jour un frimeur de Passy se mit à faire du ragga dub style. Des gars de Saint-Denis sont venus chez lui et l'ont criblé de balles vocales. Inutile de jouer l'imposture, les faux Django se prennent des cartouches de riff manouche à coup sûr. Élevé au Godfather 1, 2, 3. Jamais vu de vrai gun ailleurs qu'au cinéma, au casino, en costard mauve, un freak dans la mafia, philosophie de Sicile. Omerta, mes amis, mon clan, mes frères, mes Goodfellas, nos guitares sont des famas et nos basses font trembler les bougnards. Quand dans les brumes du quartier latin, on entend se friter les petits chanteurs du quotidien. Je porte sous mon suaire un complet gris clair et les fils de soie recouvrent ma carcasse. Avoir l'art et la manière de quitter la terre, pleurer par la maman et toucher par la grâce. Et mon âme libérée retourne dans la lune, les étoiles ont trop la classe, et je restitue mon corps sans rancune, aussi loin que me mène mon chemin dans l'univers, transporté par des airs de gangsters de la chanson française d'après-guerre.
Dans ce bouquin, donc, Allumer le chat, comme c'est censé se dérouler dans un village rural, ah, il est très rural le village, hein, et bien, il y a plein de personnages. Et ces personnages, ben, ils se connaissent tous. C'est en ça, au début, je pensais que qu'on pourrait le classer dans la catégorie feel good, ce bouquin. La catégorie feel good, ça veut dire un livre pour se faire du bien. Et j'ai remarqué, pour en avoir lu quelques-uns, qu'en général, dans la catégorie feel good, ça se déroule toujours dans un milieu rural et les habitants se connaissent tous. C'est curieux, comme des fois on imagine les choses. Tu connais tous les gens de ton village, toi ? Remarque, t'en connais pas mal quand même, Dominique. Hein. Oh oui, tout à fait.
Quand j'étais petit, je connaissais tout le monde dans mon village. Mais maintenant, non.
Ah oui, et puis si t'étais petit, c'était au siècle dernier, voire
c'est,
plus.
C'est ça.
Et donc, à cette époque-là, effectivement, n'assistons pas. Bref, pour l'instant, chers auditeurs, vous venez donc de découvrir Raymond, Mine et leur petit-fils Rémi. C'est bien leur petit-fils. Mais donc, entre les deux, eh bien, il y a les parents de Rémi qui s'appellent Josette et Martial. Et puis Martial, eh bien, il a une maîtresse qui s'appelle Edith. Et puis, après, vous verrez apparaître Robert, le père d'Edith. Et puis enfin, Pierrot, l'employé des pompes funèbres. Bon, c'est eux que je vais décrire maintenant. Je commence. Martial enterre Yuka. Martial a presque fini de creuser. Il est en nage. Il s'envoie une grande gorgée de bière et s'y remet. Il aime ce genre d'activité physique. En fait, il aurait bien aimé faire l'armée ou s'engager dans la Légion. Les stages de survie aussi, il aimerait en faire un jour. Il a vu un reportage à la télé sur le sujet. Ça avait l'air vraiment excitant et dangereux. Les mecs, ils sont lâchés avec juste leur bite et leur couteau. Hein ? Et là, pas de trucage. Il faut pas qu'ils parlent de ça à Josette, elle comprendrait pas. Ses parents non plus, d'ailleurs. Il rêvait qu'ils deviennent écrivains ou critiques d'art. Alors forcément, ils ont été déçus. Il a monté une entreprise de maçonnerie, c'est pas de la littérature, c'est sûr, mais c'est plus lucratif. Il leur a retapé la baraque à l'œil. Ils ont pas de raison de se plaindre, hein. Y a plus malheureux. Lui, pour son fils, il le laissera choisir. Il a trop souffert de ça. Bon, c'est sûr que s'il choisissait un truc de Tarlouse, genre danseur classique, ça le ferait chier. Mais il essaierait discrètement de l'intéresser à autre chose. Ouais, enfin, c'est pas un bon exemple, danseur, parce que c'est vraiment un truc de pédé. Ça, Rémi, il est un petit peu délicat de la santé, mais il est pas efféminé. Il faudrait quand même lui faire faire du sport. Du rugby, tiens, ça c'est une bonne idée pour un garçon. T'apprends à prendre des coups et à en donner. Ça forge le caractère. Il faut que je pense à aller l'inscrire. Josette, elle aime pas le sport. Elle aime pas mes potes non plus. Je me demande même ce qu'elle aime. On parle pas beaucoup ensemble. Plus beaucoup. Plus du tout, quoi. On aurait peut-être dû se séparer à la mort de la petite. Rémi, on l'a mis en route pour la remplacer. Faut pas se raconter d'histoire. Hein. On aurait peut-être pas dû. Moi, ça va maintenant, je me suis bien organisé. C'est vrai que c'est plus simple pour un homme. On peut avoir des maîtresses, des aventures par-ci, par-là. Genre, moi et Edith, quoi. Pour les femmes, c'est plus difficile, hein, surtout passer la trentaine. Et avec les enfants, j'en parle même pas. En tout cas, des mômes, moi, j'en veux plus. Elle est prévenue, Edith. Si jamais elle s'avissait de m'en faire un dans le dos, elle sait ce qui l'attend. Bon, on va dire que ça va, là, la profondeur. Faudrait pas que des bêtes viennent déterrer le cadavre. Putain, la charogne de Yuka, elle pue déjà, la salope. J'aurais dû la laisser crever, attachée à son arbre. Saloperie, ouais. Bon, voilà, c'est fini. Ça fait drôle, tout de même. Faudra que j'aille voir si le vétérinaire en a pas à donner un autre cabot pour la remplacer, pour Rémi. Robert, père d'Edith. 65 ans tout rond. Moi, je dis que tant qu'on arrive à se torcher le cul tout seul, ça va. Le jour où on pourra plus, il n'y a plus qu'à se faire sauter le caisson. C'est la limite à pas dépasser. Pour l'instant, ça va, j'ai besoin d'aide de personne. Même pas pour faire ma gnôle. Ma spécialité, c'est la poire. Là, je fais un essai avec des prunes, celles du voisin. Il n'y a qu'une chose pour laquelle il est bon, mon as de voisin, c'est les fruits. Ça, chapeau, impeccable. Pas de maladie, pas de verre, pas de pesticides. Je sais pas comment il fait. Nickel. J'y vais la nuit pour prélever ma part. Il est sourd, ça craint rien. Putain, quand j'y pense, le cobriolage chez Edith, s'il lui était arrivé quelque chose, je lui avais pourtant bien dit qu'elle devrait avoir un fusil chez elle. Mais elle veut jamais m'écouter. C'est malheureux tout de même qu'elle se soit pas encore trouvé un petit mari, belle comme elle est. Un petit gars honnête et travailleur. Ça doit bien se trouver, ils sont pas tous pourris quand même. Comme pour Robert, quand on s'est rencontrés, sans complexe, je me suis présenté direct comme ça. Robert, beau gosse, bien monté. Il y en a qui se plaignent pas à l'époque, hein, je peux dire. Honnête, juste ce qu'il faut. Hein. Trop, tu passes vite pour un con. Travailleur, par obligation, j'ai jamais vraiment aimé ça. Et qui veut de vous? Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter de plus, mademoiselle? Eh ben, elle a dit oui. Ses parents loin peu poussés, bien sûr. Mais fille-mère, en ce temps-là, c'était pas comme maintenant, hein. ça a donné Robert et Roberte. Ah, ça ne s'invente pas des trucs pareils. Un petit bout de bonne femme toute menue, mais elle avec 16 ans. Moi, je les ai toujours préférés plus en chair, mais là, j'ai fait une dérogation. Et puis, travailleuse, hein, comme pas deux. Elle se plaignait jamais. En tout cas, j'ai jamais entendu se plaindre. Pourtant, je lui menais la vie dure. J'y peux rien, c'est dans mon caractère. Je crois bien que je tiens ça de mon père. Si je l'avais pas rencontré, Roberte, j'aurais jamais eu d'enfant. Est-ce que je lui ai dit ça ? Après mon opération, il m'avait prévenu, les docteurs, que je pourrais jamais en avoir. Alors, ça a été une chance qu'on se rencontre, pour moi et puis pour elle aussi. C'est marrant, mais je me rappelle plus si je lui ai dit. Quand Edith m'appelle Bobby, ça m'énerve et ça la fait marrer, la môme. J'aime pas les ricains, que je lui dis, mais je ne pourrai jamais lui dire à quel point. Parce que le gars qui l'a engrossée, ma Roberte, avant que je la rencontre, il venait de là-bas. Et il a eu de la chance de ne pas me croiser, hein, parce qu'il serait reparti avec ses couilles entre les dents. J'ai toujours été un sanguin, même avant de partir en Algérie. Et puis, Robert et moi, on a eu la petite. Alors, même si elle n'est pas sortie de ma queue, c'est quand même ma fille. Et c'est moi qui ai choisi son prénom. Edith, je suis dingue de Piaf. En plus, elle et les ricains, ils n'ont jamais réussi à nous la prendre, hein, la môme. Même qu'ils ont essayé. Un chanteur, je crois. En tout cas, depuis, je peux pas les voir en peinture. Ça peut se comprendre. Pierrot des pompes funèbres prend la dernière photo de Martial. Pierrot se gratte la tête. Ça fait un moment qu'il est là, comme ça, à se gratter. C'est pas la première fois qu'il voit un truc bizarre, mais là, c'est vraiment bizarre. Alors, ça le fait réfléchir, forcément. Quand ils l'ont amené tout à l'heure, il s'est pris un énorme fou rire. Mais maintenant, ça le fait réfléchir. C'est pas le tout. Faut qu'il décide de la marche à suivre. C'est pas tellement la position générale qui donne le malaise. C'est surtout l'expression, les yeux sortis de leur orbite, et la langue aussi, on dirait un dessin animé. Le loup qui a vu la pin-up, la langue qui se déroule et l'alarme qui se déclenche. Là, c'est pas la pin-up qu'il a vu, le gars, c'est le cerf, et ça lui a fait tout drôle, on dirait. Pour le souvenir, il prend une photo. Ça fera rire, les poteaux au bistrot ce soir. Bon, mon Pierrot, il y a du boulot. Va falloir commencer par le scier en deux au niveau de la taille. Et puis les bras, on dirait qu'il tient un ballon géant. Et au niveau des genoux repliés aussi. Faut redresser tout ça pour que ça rentre dans la boîte. Hein. Et puis après, ben, on verra bien. Pour les yeux, il a bien essayé de les remettre, mais il n'y a pas eu moyen. Il a fini par les ôter et il a mis les boules de Watt à la place. Et il a fermé les paupières en les collant à la cyanolite. C'est pas dur. La langue, pareil. Pour l'instant, il n'est pas encore très beau, mais la maquilleuse va l'arranger. Et puis, quand il sera habillé, on verra plus qu'il a été scié, le gars. En 5 morceaux. Mais il y a quand même un dernier problème. Et là, c'est la première fois qu'à Pierrot, ça lui arrive. C'est l'odeur. Ah, ça, les odeurs de cadavres en tout genre, il connaît le Pierrot. Il y fait même plus attention à force. Non, là, c'est autre chose. Le cerf devait être dans sa période de brame. En rut, quoi. Faut dire ce qui est. Et l'odeur qu'il a laissée sur le gars, elle est tellement forte que Pierrot, il cale. Il n'y a rien qui l'ôte. Il a essayé plein de choses. C'est tenace. Va falloir qu'il téléphone à des collègues pour voir s'ils n'ont pas une solution. Parce que pour l'instant, on ne peut pas faire venir la famille. Il a demandé au directeur de descendre voir. Il a failli avoir un malaise. C'est dire.
Mots qui s'étalent dans toutes les chansons. Faut se le dire, c'est un fantôme. N'y touche pas, brûlant d'arôme. Regarde tout bas, l'air innocent de Saint-Vincent. On a maquillé nos squelettes érodés, c'est bien plus pratique. Mais l'un sans l'autre, le cœur n'ose pas. Mais l'un dans l'autre, la vie va s'en va, effleurant le vent Saint-Vincent. On n'est pas nihiliste, c'est la rue qui dit tout ça. Le prochain sur la liste, c'est toi, tu me raconteras. Un petit coup de couteau, trois petits pales dans le dos. Saint-Vincent joue avec les mots. Du whisky ou la vodka, peu importe, ça ira. Je veux partir encore. Une fois passé du côté de la visage, plus rien à faire. Mais quand tu gigotes, je chavire doucement, tu me ravigotes tant. Et les yeux sanglants, si t'es le talent, moi je serai l'envie. La froide lame, et si nous devions, c'est clair un moment, dans une harmonie, je resserrerai les dents. Un petit coup de couteau, trois petits balles dans le dos. Saint-Vincent joue avec les mots. Du whisky ou la vodka, peu importe, ça ira. Je veux partir encore. Il cousait sa vie, si le temps vous en dit. Rue des Brouettes. Mais les artistes, Saint-Vincent, ça n'existe pas. Mais la chanson va.
Dans tout roman, après avoir présenté les personnages, vous en connaissez quand même pas mal maintenant, hein, eh bien, il faut bien une histoire. Et dans celui-ci, il y en a plusieurs qui, on va dire, qui s'entrecroisent. Alors, loin de moi l'idée de dévoiler la fin du bouquin, mais je vais simplement essayer d'aborder, par petites touches, on va dire, des pistes possibles d'histoire. Et tant pis si au passage, vous découvrez des personnages que vous ne connaissez pas. Ça pourrait arriver, hein, forcément, puisque je ne vous les ai pas tous décrits. Y a tout un village, hein, je vous dis. Allez, je commence. Edith et Josette arrivent à Missoula, Montana, USA. Il fait une chaleur à crever. Je ne vais pas supporter. Tu me dis quand tu penses que c'est lui. Je ne veux pas retirer mes lunettes de soleil. Josette, tiens-moi la main. Si c'est un condriquin, on se casse aussi sec, ok ? Edith et Josette sont à l'aéroport. Elles ont changé d'avion trois fois. Pour Missoula, il n'y a pas de vol direct, évidemment. C'est un bled paumé. Edith est tendue. Josette voit un grand mec, la cinquantaine, qui fait signe dans leur direction. Elle se retourne pour voir si ça s'adresse à quelqu'un d'autre. Non, elles sont seules. De ce côté-là, ça doit être Bobby. Plutôt bel homme, d'ailleurs. Mais très, très grand. Elle ne se l'imaginait pas aussi grand. Edith, je crois bien que c'est lui, là-bas. Edith regarde. Elle voit Bobby. Oui, elle sait que c'est lui. C'est son père. Elle marche vers lui. Son pas se ferme. Il se regarde longtemps, se serre dans les bras. Son père. L'homme que sa mère a aimé, elle l'aurait reconnu entre mille. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle en est sûre. Josette, derrière elle, pleure. C'est émouvant, merde. Bon, allez, on y va. Ils vont chercher les bagages. Juste avant que la voiture ne prenne le chemin qui mène à la maison, Bobby ralentit. Edith, écoute-moi ma retrouvée. Je t'ai attendu pendant 30 ans, et maintenant que tu es là, j'ai attendu ta mère 20 ans, et ça fait 10 ans que je ne l'attends plus. Maintenant, c'est elle qui t'attend. Je vais rouler jusqu'à la maison très lentement. Regarde, elle est là, devant la maison, toute petite. Tu la vois ? Ta mère t'attend, Edith. Elle doit avoir du mal à retenir ses larmes, telle que je la connais, ma boba. Ces dernières secondes doivent lui paraître une éternité. Mais Je te devais bien ces quelques secondes, n'est-ce pas, Edith ? Elle est déjà descendue de la voiture. Elle ne sait plus. Là, pour le coup, ses jambes sont molles. Robert marche très lentement vers elle. Ça lui laisse le temps de réaliser. Plus que quelques mètres et elles vont se toucher. Maman ? Le temps se suspend. Elles sont dans les bras l'une de l'autre depuis de longues minutes, comme pétrifiées. Enfin, petit à petit, le rythme de leur respiration redevient normal. Bobby et Josette se sont installés sous la tonnelle. Il fait très chaud. Ils ne disent pas un mot. C'est Edith qui brisera le silence, quand elle voudra. Elle a tous les droits maintenant. Josette a eu sa dose d'émotion. Il est tard. Elles n'ont pas mangé depuis des heures. Elle a faim. Elle entre dans la maison, trouve la cuisine, fait comme chez elle. Elle prépare le repas. Bobby vient l'aider. Quand tout est prêt, ils sortent ensemble chercher leur femme. Elles ne sont plus dans la cour. Elles marchent sur le petit chemin qui mène au lac en se tenant par les bras. Les chiens les accompagnent. Il fait plus frais là-bas. Bobby et Josette s'installent et mangent. Quand Edith et Robert entrent, bien plus tard dans la journée, Josette a déjà sorti des bagages, installé leurs affaires dans la chambre et visité les alentours. Bobby a coupé du bois et est allé donner à boire aux chevaux. La vie se réorganise, les choses trouvent leur place, l'air semble être chargé de quelque chose de plus. De plus sauvage peut-être. Oui, c'est ça, de plus sauvage. Rémi apprend à guérir avec Raymond. Ma mère Josette est rentrée de voyage, sans Edith. Edith est restée là-bas, en Amérique, avec sa maman, son papa et son petit frère. Je ne comprends pas très bien pourquoi les grandes personnes, ils ont encore des papas et des mamans. À leur âge, ils ne devraient plus en avoir besoin. Moi, je suis encore un peu petit et j'ai plus de papa. Alors ça ne me dérange pas. J'en ai pas besoin. Enfin... si, des fois, mais pas souvent. À l'école, en tout cas, je suis sûr que j'irai pas quand ça sera le jour du cadeau de la fête des pères. Parce que là, c'est sûr que je pourrai pas me débrouiller. Le cadeau qu'on fabrique ce jour-là, ce sera pas la peine que je le fasse. Sinon, il faudra que je le jette à la poubelle. Alors, c'est pas la peine. J'ai des copains qui parlent tout le temps de leur papa. Ils me cassent les pieds. Ils disent qu'ils font plein de trucs chouettes avec eux, qu'ils jouent au foot, au circuit de voiture, à la bagarre. Moi, je m'en fous, j'aime pas ces jeux-là. Je m'en fous complètement. Avec mon grand-père, je fais des trucs beaucoup plus chouettes. Au début que je le connaissais, c'est sûr, il voulait jouer à tout ça, et surtout au foot. Mais il a compris que ça me plaisait pas trop. Maintenant, on fait plein d'autres choses. On fait du tir à l'arc, on va à la pêche, on fabrique des mangeoires pour les oiseaux et on essaye de les reconnaître quand ils chantent. On a un CD-ROM pour ça. Et puis, on guérit des gens. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Parce que je voudrais être docteur quand je serai grand. Avec ma cousine Clara, on joue souvent au docteur et vraiment, j'aime bien. Pour l'instant, je suis spécialiste des brûlures. C'est le don que j'ai. Je soigne Mine, elle se brûle en faisant la cuisine des fois, alors je la guéris. Raymond m'apprend à guérir d'autres choses. Il dit qu'il doit me transmettre tout son savoir. Et il en a beaucoup, ça va prendre long. Hier, il m'a appris les verrues. Je vais voir si j'arrive sur celle de Jacques. Il en a 3 sur la main. Je lui ai donné rendez-vous dans mon cabinet. C'est pas que pour les toilettes qu'on peut dire cabinet. En vrai, c'est dans ma chambre, mais je dis comme ça, c'est pour jouer à faire comme si, voilà. Alors tout ça, hein, ça m'étonnerait quand même que les papas soient capables de faire autant de choses avec leurs enfants. Moi, je crois que c'est mieux quand c'est un grand-père, parce qu'il connaît plus de choses, parce qu'il a eu une vie plus longue et qu'il a eu plus de temps pour tout apprendre, c'est ça que je crois, moi. Et c'est pour ça que je dis que de ne pas avoir de papa, eh ben, c'est pas grave. Je dis comme ça parce que le mien, il est mort et que même si j'avais envie qu'il soit là, eh bien, ça se pourrait pas. Alors, c'est pas la peine que je pleure pour rien. Jacques, il a eu un papa vivant et il se voit presque jamais. Ça fait pareil que s'il était mort, on dirait. Alors, je lui prête Raymond. Il aime bien tout ce qu'on fait, sauf apprendre à guérir. c'est pas du tout son jeu favori. Il a pas le don, alors ça le rend vexé. C'est normal. Mais pour tout le reste, il aime bien. Il est le plus fort de nous pour reconnaître les oiseaux. Il arrive même à siffler comme eux. Et même les oiseaux, ils croient qu'il est un oiseau. Et ils lui répondent et tout et tout. C'est hyper marrant. Bon, voilà. Et puis maintenant, ma maman est revenue. Elle n'ose pas me demander que j'aille vivre dans sa maison. Je voudrais bien dire oui si elle demande. Parce que maintenant, j'aime bien quand elle m'embrasse et qu'elle me prend dans ses bras et qu'elle me serre fort. J'ai presque envie de pleurer des fois. C'est pas parce que je suis triste, mais parce que je suis super content. Mine aussi, elle me serre dans ses bras et j'aime aussi. C'est ma mine, la grand-mère que je préfère. Mais quand c'est maman, j'ai l'impression de redevenir un bébé, son petit enfant. Ça me rend content, je sais pas expliquer. C'est comme ça. J'ai déjà dit à Raymond et à Mine que si elles demandent, je dirai oui pour aller habiter avec elles. Et je leur ai dit qu'ils viendront me voir tous les jours. Ils sont d'accord. J'ai préparé ma valise et mes jouets. Elle va peut-être me demander ce soir. Comme ça, je serai prêt. Et dans le livre, il y a même des recettes de cuisine. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Entrée. Pâté de rat. Un peu fort, mais avec un vin blanc du Jura qui prend bien le dessus, on en redemande. Salade de verre. Très léger pour les appétits d'oiseaux. Beignet d'écureuil aux noisettes, à réserver pour les dîners d'amoureux. Un peu casse-couille à préparer. Plat du jour. Hérisson en coque d'argile. Plat traditionnel manouche, je crois. Civet de renard, à prévoir d'avance parce qu'il faut faire tremper dans du lait pendant 2 ou 3 jours avant de le faire cuire. Sans la queue, bien sûr. Ragoût de vipère aux châtaignes. C'est avec cette recette que j'ai attrapé mon Momo et il m'a enfilé la bague au doigt. Bouillabaisse de la mare, à en faire baver les Marseillais. Dessert. Tartelette au pé de lapin. C'est juste moi qui les appelle comme ça, les myrtilles, pour faire rire mon Momo. Mais pour lui, dans la pâte, j'y mets des faillots, ou pire, des salsifis. On aime bien rigoler tous les deux. In the early morning rain, with a dollar in my hand, an aching in my heart, and my pockets full of sand. I'm a long ways from home, and I miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go, out on runway number 9. 707 set to go, but I'm out here on the grass where the pavement never grows, where the liquor tasted good and the women all were fast. There she goes, my friend, she's rolling out. Hear the mighty engines roar, see the silver wing on high. She's waiting in a whispered bound, far above the clouds she'll fly, where the morning rain don't fall and the sun always shines. She'll be flying, oh my home, in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm out here on the grass, cold and drunk as I might be. Can't jump a jet plane like you can a freight train.
so I'd best be on my way. In the early morning, so I'd best be on my way. In the early morning, so I must be on my way. In the early morning.
Et pour terminer avec mes extraits de ce livre, je vous propose de revenir au titre du bouquin « Allumer le chat ». Terminus. Elle a pris une semaine avant de demander et durant tout ce temps, Rémi n'a pas défait sa valise, le petit bonhomme. Parce qu'à son retour du Montana, Josette s'est un peu éparpillée. Elle a amorcé tous ses changements dans le désordre. Elle avait peur, quoi. Elle n'a pas osé demander à Rémi s'il voulait bien vivre avec elle parce qu'elle ne se sentait pas prête à supporter un éventuel refus. C'est pour ça qu'elle a attendu si longtemps. Alors, elle a commencé par prendre un amant, et puis elle a trouvé une maison, et enfin, elle a réfléchi à la façon d'organiser son nouveau moyen d'existence. Un gros boulot. Et puis, elle a regardé en arrière. Ces derniers mois lui sont apparus comme une formidable parenthèse. La mort de Martial, son aventure avec Edith, ses retrouvailles avec son père, et maintenant, celle avec son fils. Elle s'est dit qu'elle supporterait très bien que la suite soit un petit peu plus calme. Et surtout, elle a trouvé qu'il était plus que temps de devenir mère. Mère de son fils de 5 ans et demi. Ses instincts se réveillent lentement. Alors maintenant, elle garde les yeux et le cœur grand ouvert. Elle décide de marcher à découvert. Et tant pis si on voit les cicatrices. Elle va bientôt commencer les travaux dans la maison incendiée de Nicole et Jean-Yves, ses beaux-parents. L'assurance a accepté son devis. Elle a repris et transformé l'entreprise de Martial en entreprise spécialisée dans la rénovation à l'ancienne. Elle va reconstruire, réparer, bâtir. Elle n'a jamais fait ça avant, c'est très excitant. Elle a gardé les anciens employés, mais pour certaines techniques, comme le montage de murs en torchis, elle n'a trouvé personne de compétent. Elle a fini par engager des artisans à la retraite. Il y en a qui en avaient marre d'aller tous les jours à la pêche. Et puis, ils vont former des apprentis. Ils vont leur en faire voir, ça c'est sûr. En faisant griller des côtelettes sur le barbecue, Josette s'est brûlée la main. Rémi l'a guérie. Elle n'a pu que constater. Elle a donc accepté que Raymond lui transmette son don de guérisseur. Ça, plus le tir à l'arc, la pêche et des cours de piano avec mine. Il est tous les jours chez eux. C'est ce qu'il voulait. Il a dealé aussi quelques autres petites choses, comme d'avoir plein d'animaux à la maison, à commencer par un chat. Il se trouve que justement, Bastos a réussi à séduire Riton. Tout le monde continue à l'appeler Riton, malgré la découverte tardive, certes de son véritable sexe. Merci Raymond. Mais personne n'arrive à l'appeler Riton. Rita aurait été plus logique, mais un nom de sainte pour une dévergondée comme elle, même si c'est pas elle, même si c'est pas à cause des désespérés, ce n'était pas justifié. Donc, Riton est enceinte jusqu'aux dents. À 7 mois à peine, c'est une surprise. Rémi en a déjà réservé un, peut-être 2. Il va falloir qu'il demande à sa mère. Elle dit oui à presque tout. Alors il en profite un peu. « Allô, maman, c'est moi !» Un deuxième chat ? Mais enfin, voyons, on verra, mon chéri. Bon, allez, d'accord. En tout cas, Bastos est en route pour voir la belle Riton. Il n'arrive pas à l'appeler autrement. Riton, ça ne lui évoque rien. Enfin, si, juste que c'est un petit peu vulgaire, un peu ringard. Riton, ça a quelque chose d'exotique. Et puis, qu'importe le nom, pourvu qu'on ait la tigresse. On est un petit peu con quand on est amoureux, hein. Il vient d'apprendre que la petite est enceinte. Il a un peu de mal à prendre la mesure de cette nouvelle. Une chose est sûre, il sait déjà qu'il n'aura aucune sympathie pour les petits mâles qui n'attendront pas longtemps pour essayer de séduire leur mère et leur sœur. Il a été jeune avant eux, il sait. Et franchement, eh bien, il trouve tout ça révoltant. révoltant et inacceptable. Le sauvage, c'est bien, mais le sauvage maîtrisé, c'est mieux. Il se dit qu'il va devoir éduquer ses fils dans ce sens. Mais est-ce faisable ? Il réfléchit. Ça va demander une disponibilité de tous les instants, un engagement total pour une chance infime de réussite. Et il n'y a pas que ça. Il va falloir leur inculquer le respect des anciens, c'est-à-dire de lui, Bastos, leur père. Ça va être difficile, surtout qu'ils risquent d'être plusieurs. Ils auront très vite le dessus. Bébé, ça va encore, mais dès qu'ils auront 3 ou 4 semaines, ça va devenir affreux. Devoir mater ces petits délinquants, ces graines de racaille, quel cauchemar! Ça y est, il commence à regretter. Il en est à se demander s'il ne devrait pas rentrer se coucher, directement. La tête lui tourne. Non, c'est vrai, il est complètement crevé en ce moment. Cette histoire de paternité tombe très mal, ça le chamboule trop. Il pense à sa vie, son temps, sa place, une très bonne place, près du poêle, même l'été. Pourquoi partir ailleurs ? C'est idiot de risquer de tout perdre. Riton, elle est gentille, mais pour ce qui est de l'échange intellectuel... Voilà, il fait demi-tour. Il retourne se coucher près du poêle éteint. Il est vraiment hyper crevé en ce moment. C'est peut-être à cause de la chaleur, ou du stress, ou des deux. En tout cas, une chose est sûre, il a une bonne place et il ne la laissera à personne. Surtout pas à des petits branleurs de jeunes matous arrogants, sales et mal polis. À ça non, jamais. Un point c'est tout. Quelques jardins plus loin, Raymond est planté devant la porte ouverte, jambes écartées, poings sur les hanches. La nuit s'annonce douce et tranquille. Une ombre passe, c'est Bastos qui rentre. Il a l'air très abattu, le pauvre. Raymond ne peut pas s'empêcher de frissonner. Il pense au fusil. Ça fait des mois qu'il n'y pensait plus. La présence de Rémy dans la maison lui a fait oublier jusqu'à son existence. Mais maintenant que Rémy n'est plus là, il s'en rappelle, il a des pulsions aussi. Cette envie d'allumer le chat qui le prenait. Mine, est-ce que tu sais où j'ai rangé le fusil ? Mine s'inquiète, elle se dit « ça y est, il recommence ». « Non, à la cave peut-être. Pourquoi ? Pour rien, pour rien. Bastos vient de passer. Et tu ne vas pas me croire, mais je n'ai pas eu envie de l'allumer. C'est marrant, hein ?» Mine rit. Raymond reste quoi ? C'est le terminus. Et on en reste là.
Dans la chaleur, mois de 2 juillet, sur un vieux scooter débridé, par la vitesse, les larmes tirées tombent sur leurs jambes dénudées. Ils rouvrent le lac assuré que rien ne puisse leur arriver. Trop jeune et déjà cabossé d'une vie en ronces et de fleurs fanées. Au-dessus de l'usine, le ciel est dégagé. Dans l'ouvert bouteille se reflète l'été. Étendu dans l'herbe, ils ne font que fumer. Perdu dans leur rêve, libre d'être oublié. Percé par le souffle du sirocco, on sourdine un morceau de techno. Le soleil au zénith qui brûle la peau, rafraîchi de désir, si loin des idéaux. Ils se mordent les lèvres et se dévorent, haute leur jean cul nu sous les rayons d'or. Leurs mains se cherchent et se trouvent encore pour languir le plaisir qui finit par éclore. D'étoiles, les ombres ton sur ton, l'obscurité déposera sur les couleurs un voile. Il se fabrique des souvenirs avant que tout ne s'estompe, que l'on oublie les voix et les feux de